Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Je vous rappelle que le dernier numéro de Conflit en kiosque dans le dossier est consacré à l'Espagne, un numéro que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques et sur notre site internet revueconflit.com où vous pouvez également vous abonner. Conflit ne vit que par ses abonnés et ses achats en kiosque, enfin, en tout cas par ses lecteurs. Donc, en vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer. Nous allons bientôt fêter les 10 ans de Conflit, puisque Conflit a été fondé en mars 2014 et depuis 10 ans, le prix de la revue est resté le même, à 9,90 € en dépit de la très forte hausse des prix du papier. Eh bien, c'est notamment grâce au fait que le nombre d'abonnements ne cesse de croître. Je vous remercie évidemment pour votre fidélité. Et pour Noël, vous pouvez offrir un abonnement à Conflit à vos proches. Ce sera ainsi une très belle ouverture sur le monde. Cette semaine, nous allons aborder le sujet d'industrialisation, de désindustrialisation, les sujets portuaires aussi. Et on a souvent tendance à considérer dans les sujets économiques, politiques ou géopolitiques des états de fait, et en considérant que les choses vont ainsi parce que par nature, il devait en être ainsi. Par exemple, la question des ports, si la Hollande a les plus grands ports en Europe, eh bien on va considérer que c'est grâce à la position géographique de la Hollande, ce qui n'est pas faux. Mais c'est oublier que les choses se font par les hommes, les choses positives comme les choses négatives, et que la France, avec sa très large façade littorale, avec ses fleuves, avec ses villes importantes, et l'Île-de-France, par exemple, qui est la première région économique d'Europe, devrait avoir des ports qui devraient être parmi les principaux ports en Europe, notamment Le Havre et Marseille. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas dû à quelques causes naturelles, mais bien à des facteurs humains. Et nous allons les aborder cette semaine avec mon invité, Paul-Antoine Martin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Conflit. Nous avions réalisé en février 2023 un entretien que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site de Conflit au sujet d'un livre que vous avez fait paraître qui s'intitule « Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État ». Qui est paru en 2022 chez Max Milo. Alors, vous avez longtemps travaillé dans le domaine portuaire, une quinzaine d'années. Vous n'êtes pas issu du corps, vous évoquez le corps des ponts que vous évoquez dans l'ouvrage. Et l'ouvrage que vous avez publié a la forme un peu romancée. Du moins, il y a des personnages qui n'ont pas existé, mais qui sont très fortement inspirés de faits réels. Ce qui rend d'ailleurs l'ouvrage très agréable à lire, puisque c'est l'histoire d'une personne un peu ingénue qui découvre le fonctionnement des ports français et notamment de la caste, cette caste d'État qui pense que cette caste est au service de l'intérêt public, de l'intérêt général et qui se rend compte que non, qu'elle est là pour défendre ses intérêts, qu'elle utilise des méthodes parfois non légales et ça explique aussi ce déclassement des ports, notamment Marseille ou Le Havre par exemple. Comment est-ce que vous êtes rendu compte de cette mainmise d'une caste particulière sur la gestion portuaire et donc sur le fait qu'elle empêchait le bon développement des ports ?
Bien, merci d'aborder ce sujet, Jean-Baptiste, parce que c'est un sujet extrêmement important au niveau français et qui est beaucoup trop peu abordé alors qu'il est majeur pour l'économie française. Alors, pour répondre à votre question, comment je me suis rendu compte de l'emprise hein, de cette caste, et en particulier du corps des ponts sur l'ensemble de du secteur portuaire, mais encore plus largement sur l'ensemble du secteur des transports ? Eh bien, c'est tout d'abord, quand on observe qui dirige les grands ports français, vous ne trouvez que des personnages issus du grand corps des ponts, donc tous hauts fonctionnaires. Et puis quand vous regardez ensuite leur tutelle ministérielle, c'est-à-dire le ministère des Transports, vous vous rendez compte que à chaque strate hiérarchique du ministère, vous trouvez à la tête de chaque strate une personne du corps des ponts. Vous, si vous relevez encore la tête, vous regardez du côté du cabinet ministériel, vous y trouvez encore des ingénieurs du corps des ponts. Et quand vous regardez ensuite le directeur de cabinet, vous y trouvez encore un ingénieur du corps des ponts. Donc ce grand corps des ponts, ce corps des ponts, finalement, est omniprésent. Il est même plus qu'omniprésent. Il est le seul présent dans tout ce qui est rouage essentiel de la gestion des ports. Et donc, il met une véritable emprise. Enfin, les ports sont sous emprise, effectivement, de l'état d'esprit de ces personnes. Alors, je parle d'un état d'esprit parce que c'est un état d'esprit de caste. Un grand corps d'État fonctionne, et je ne suis pas le premier à le dire, bien sûr. Donc, j'en ai fait l'expérience et je les ai côtoyés pendant une quinzaine d'années, comme vous l'avez dit en préambule. Ce sont des gens qui fonctionnent dans l'entre-soi. C'est un groupe totalement fermé, étanche à tout individu non issu de leur corps des ponts, non seulement étanche à tout individu, mais étanche à toute intelligence ou toute idée qui viendrait de l'extérieur. Parce qu'ils s'estiment savoir, ils s'estiment être l'élite de la nation. Donc, dans ces conditions-là, ils ont une capacité d'écoute qui est extrêmement faible.
Alors, on pourrait dire, ben, ils viennent tous du même corps. Ce corps, finalement, est fait pour ça, c'est pour s'occuper des infrastructures. Donc, c'est finalement assez normal que ce soit eux et pas des gens de d'autres écoles. Le plus gênant, c'est leur difficulté ou leur incapacité à se projeter, à faire du développement, à avoir la concurrence aussi mondiale, et donc, par leur attitude, à empêcher le développement des ports et à provoquer un périclitement.
Exactement. Vous avez totalement raison en disant que cette formation, elle est faite justement pour la direction de ces grands secteurs économiques français. Le problème, alors, ça a très bien fonctionné après la guerre. Après la guerre, et puis, et même avant, après la Seconde Guerre mondiale, pardon, y avait un état d'esprit qui était un état d'esprit à la reconstruction avec des hommes qui avaient vécu dans leur chair la souffrance et avaient vécu des périodes de vie difficiles. Donc c'était des hommes qui avaient été forgés beaucoup plus solidement que les hommes qui peuvent réussir des concours aujourd'hui uniquement sur table. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le fonctionnement de caste. Ce fonctionnement de caste est possible quand vous occupez quand vous avez totalement le pouvoir sur un secteur. Vous pouvez, à ce moment-là, fonctionner en vase clos. Et quand vous fonctionnez en vase clos de cette façon-là, vous vous autorisez des choses que vous ne vous autoriseriez pas si ce n'était pas le cas. Comme ils ont le pouvoir, ils se construisent et se s'organisent une irresponsabilité institutionnalisée, finalement, vu leur position. Mais pire que ça, ils se sont construits une impunité. Et quand vous bénéficiez de ce privilège immatériel et incroyable qu'est l'impunité dans un pays comme le nôtre, ben vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à aller échafauder des stratégies complexes pour développer, etc. Moi, j'ai vu des gens qui, des dirigeants du grand port maritime français qui ne sortaient pas de l'Hexagone, qui ne rencontraient pas de clients, qui ne parlait pas anglais, il n'en trouvait pas l'intérêt ni le besoin.
Alors, dans votre livre, vous montrez justement un exemple où le narrateur ou le héros qui raconte l'histoire se retrouve dans un forum à l'étranger. Il se rend compte que non seulement ces ingénieurs des ponts sont moqués, méprisés, mais que personne à l'étranger ne veut travailler avec eux.
Oui, ça a été une très très désagréable surprise. C'est une expérience personnelle que j'ai faite et que j'ai retranscrite dans le livre. Je me suis rendu compte lors d'un très grand salon international à Munich que effectivement un seul, par exemple, c'est au travers d'un des plus grands logisticiens européens, voire mondiaux. Il avait un stand dans lequel, à l'arrière duquel se trouvait une grande carte d'Europe sur laquelle était présente un nombre très très important de points lumineux. Chaque point lumineux représentant une agence. l'agence de représentant son entreprise. Et il y avait un seul endroit dans toute l'Europe qui ne possédait aucun point lumineux, c'était la France. Et donc j'ai posé la question, quelle était la raison de cette situation au directeur qui était présent sur le stand. Et il a éclaté de rire, il m'a expliqué que travailler en France était impossible, en particulier à cause de cette haute fonction publique qui empêche de qui n'est pas capable de trouver des solutions et qui empêche le développement du business. Et je ne l'ai pas entendu qu'une seule fois, je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, je sais que dans mon métier, j'ai eu à un moment donné, j'ai souhaité construire un projet avec un homme qui travaillait beaucoup entre le Benelux et l'Autriche. Il trouvait l'idée que je lui présentais tout à fait intéressante et certainement rentable. Mais il m'a dit, écoute, je ne retravaillerai pas avec la France parce que c'est impossible de travailler avec les ministères que vous avez. Alors, ces ingénieurs des grands corps sont effectivement moqués, sont ridiculisés. C'est pas seulement le corps des ponts, c'est tous les grands hauts fonctionnaires français. Ils sont moqués aux États-Unis, ils sont moqués en Europe, et ils sont principalement moqués par leur arrogance, leur suffisance et leur capacité effectivement d'être certains de ce qu'ils ont décidé jusqu'au moment où, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils viennent fracasser leur entreprise ou leur institution contre un mur.
Alors, comme l'économie est un système, si les ports fonctionnent mal, ce n'est pas uniquement le problème des villes portuaires et de l'économie locale. Ce serait déjà très grave, mais en plus, c'est un problème pour l'ensemble de l'économie française, l'ensemble des villes fluviales, pensons à Lyon ou à Paris. Rouen est le premier port de céréales en Europe. Et également pour les économies, les entreprises qui vivent autour du commerce et de... Par exemple, quand les Bordelais exportent le vin de Bordeaux à l'étranger, une partie du vin transite par le port de Rotterdam et non pas par Le Havre ou par Bordeaux, ce qui est très très, ce qui ne devrait pas exister normalement.
Ça en dit long.
Oui, ça en dit long. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'économie française qui en pâtit, donc des questions industrielles, souveraineté, réindustrialisation, puissance française, c'est un poids pour l'ensemble du pays.
C'est un poids considérable qui est très mal connu, que le gouvernement ne montre pas, d'autant plus qu'il est mal connu, donc la presse, les médias, et non pas Conflit. Conflit, c'est un très très bon travail sur le sujet. Mais on entend très très peu ce sujet-là dans les médias, sauf dans certaines situations, quand la CGT bloque les ports. Et donc, l'État a finalement instillé dans les esprits que si les ports marchent mal, fonctionnent mal, c'est à cause de la CGT. Donc il y a une stigmatisation de la CGT. Alors, c'est pas faux de dire que la CGT peut avoir des méthodes très brutales et que c'est un syndicat profondément corporatiste qui joue largement avec la ligne rouge très souvent. Par contre, ce que j'ai observé, moi, c'est que le pôle ultra-corporatiste qu'est la CGT a son pendant, qui est le pôle ultra-corporatiste de la haute fonction publique. Et j'ai plutôt tendance à dire que la responsabilité échoua à celui qui est à la tête, c'est-à-dire la haute fonction publique, et là en particulier le corps des ponts, qui vide aujourd'hui sur une rente depuis 30-40 ans, au point que ce que nous observons, nous tous, les hommes et les fans du monde maritime, c'est que les ports sont devenus simplement des circuits à carrière pour ces gens-là, pour le corps des ponts. Donc en fait, ils viennent faire un petit tour dans le circuit des ports, prendre un gallon, deux gallons, trois gallons, et puis ils arrivent à convaincre le ministre que toutes les défaillances des ports sont dues à la CGT. Donc bilan, ils sont irresponsables. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils trouveront une cause autour de la CGT ou, et ça, ils sont très forts pour ça, autour du coronavirus, de l'Ukraine, et j'en passe. Et c'est vraiment extrêmement inquiétant. On a aujourd'hui une haute fonction publique qui a perdu toute exemplarité. J'ai tendance à dire que, et vous l'avez très bien rappelé, Jean-Baptiste, les ports sont les premiers piliers, me semble-t-il, d'une économie. C'est un pays qui n'a pas de port est un pays qui, de fait, aura du mal à être souverain, aura du mal à, comment dire, à gérer son avenir sans les pays voisins et des pays qui pourraient avoir une issue sur la mer. Nous avons des façades maritimes exceptionnelles et lorsque l'on somme l'ensemble des trafics de tous les ports français, on atteint environ 320 millions de tonnes. C'est quasiment la même chose à 1 ou 2 millions de tonnes près qu'en 1980. Entre ces deux dates-là, 1980 et aujourd'hui, il y a eu des milliards, des dizaines de milliards d'euros injectés dans les ports, des milliards d'euros qui n'ont rien rapporté. Par contre, à l'étranger, les ports comme Anvers, Hambourg, Rotterdam ont eux connu une ascension vertigineuse au point que le port d'Anvers ait fait un trafic qui est bien plus gros que l'ensemble de tous les ports français. C'est vertigineux quand on y réfléchit. Ça veut dire que l'échec français est absolument complet. Or, à aucun moment, on entend un gouvernement, un ministre des Transports, le corps des ponts, faire amende honorable, reconnaître la moindre responsabilité. La haute fonction publique aujourd'hui, ce qui est dramatique, est incapable de se remettre en question. Donc, elle va reproduire les mêmes erreurs indéfiniment. Pour une raison très précise, c'est qu'il n'y a pas de contrôle et parce qu'elle ne rencontre quasiment à personne. Voilà. Donc, la situation aujourd'hui, elle n'est pas freinée, elle n'est pas prise en main, parce que quand le ministre fraîchement nommé arrive à son poste, se tourne vers son administration et lui demande où sont les problèmes, où sont les difficultés, comment se passe, comment dire, se développent les ports, il a face à lui une autre administration qui est entièrement composée de membres du corps des ponts qui sont plus ou moins présents dans le secteur des ports depuis plusieurs années, donc de fait qui sont responsables. Donc ils ne vont pas affirmer devant le ministre que, il y a de grandes difficultés, qu'ils sont comment dire, les causes de cette on va dire, déliquescence, en fait, hein, des ports français. Et donc le ministre n'a plus le pouvoir vis-à-vis de ce type de grande administration. Et ça, c'est un vrai danger démocratique. Je l'ai vu, je l'ai vécu de nombreuses fois. Et ça, c'est absolument tragique parce que on voit comment, de façon organique, comment une haute administration peut finalement empêcher des réformes, empêcher des actions de se faire alors qu'elles pourraient être bénéfiques pour le pays, mais pas forcément pour le grand port en question.
C'est-à-dire qu'on passe d'une démocratie à une technocratie, c'est ce que vous avez dit, on appelle l'état profond, où les gouvernements peuvent changer, l'administration demeure indépendamment des alternances politiques. Alors, le maire du Havre a quelques ambitions présidentielles, donc peut-être qu'il mettra la question du port sur le sujet. Et vous dites que donc en 40 ans, 1980-2020, le trafic portuaire en France n'a pas augmenté. Au même moment, on a décuplé la mondialisation. Donc, ça aurait dû, en toute logique, suivre au moins la même évolution. Donc, c'est plus qu'un échec,
C'est une
c'est une
déroute.
déroute complète.
C'est une déroute complète. C'est une, et je vais utiliser un mot qui est très grave, c'est une trahison, c'est une forfaiture à ce niveau-là. Vous avez raison de le rappeler, le trafic maritime mondial, le commerce maritime mondial, s'est accru de 100% entre 2000 et 2019. Il s'est accru de 240% entre 80 et 2000 et 2020. Eh bien, entre 2000 et 2019, avec cette croissance du commerce maritime de 100%, l'ensemble du trafic portuaire français ne s'est accru que de 0,25%. Hambourg, lui, le port d'Hambourg s'est accru de 100%. le port d'Anvers de 80%, le port de Rotterdam de 40%. Mais ils sont dans des niveaux de trafic tellement considérables que 40%, développer le port de Rotterdam de 40%, c'est absolument considérable. C'est la moitié, non, c'est même plus que ça. Oui, c'est plus que la moitié d'un coup que l'ensemble du trafic portuaire français. Donc, c'est une véritable déroute. Cette déroute, et comme vous le rappeliez à la question précédente, elle va agir en effet domino. Si vous ne développez pas les ports, les entreprises, les industries ne vont pas trouver le moyen dans les territoires français d'exporter à des prix compétitifs, de façon rentable. Soit, effectivement, ils remontent leurs marchandises jusqu'à Anvers, jusqu'à Rotterdam, mais ce sont des coûts supplémentaires, ce sont des contraintes supplémentaires. Donc, il sera beaucoup plus facile pour eux, soit de s'installer au plus près des ports en question, étrangers, soit carrément d'aller dans une zone comme la Chine ou encore ailleurs. Donc, quand le gouvernement aujourd'hui met comme objectif premier la réindustrialisation de la France, le premier chantier, c'est le redressement très, très, très vigoureux des ports français. Cette déroute des ports français a aussi un impact majeur sur notre agriculture, puisque une grande partie de nos produits agricoles sont exportés. Et c'est un enjeu majeur en termes de balance commerciale. Aujourd'hui, on observe que notre balance commerciale est très défavorablement déséquilibrée, avec bien sûr le Benelux et l'Allemagne. Donc on est en position de fait non souveraine, en particulier sur l'énergie.
Les ports fluviaux sont gérés aussi par le corps des ponts, notamment le port de Gennevilliers ou le port de Lyon. C'est même pareil que pour les ports maritimes.
Le port de Gennevilliers, par exemple, il est intégré au port de Paris, qui lui est intégré à Aropa, qui est géré effectivement par plusieurs corps des ponts. Alors le port de Lyon, je ne crois pas, c'est un port qui doit être géré soit par la ville, soit par la région, et je ne crois pas que ce soit un membre du corps des ponts qui le gère. Par contre, il est en lien, comme c'est un port fluvial, il est en lien direct avec le port de Marseille.
Bien sûr, et puis le port de Lyon, enfin, c'est entre la Rhône, le Rhône et la Saône, évidemment. On se souvient d'ailleurs c'était Dominique Voynet, ministre de l'écologie de Lionel Jospin, qui s'était opposé à la création du canal Seine-Rhône, au nom de l'écologie, c'est-à-dire un canal est justement ce qui permet à la fois le développement économique et l'amélioration écologique, qui aurait permis de relier la Manche, la mer du Nord, à la Méditerranée. C'est là aussi une aberration en matière de projection.
Alors, des aberrations stratégiques, ils les ont accumulées en fait de façon incroyable. Je vais vous citer un autre exemple qui va parler à vos auditeurs. Quand des ports ne se développent pas, c'est du trafic terrestre qui ne se développe pas. Et le meilleur trafic terrestre, le plus massifié, c'est le mode fret ferroviaire. Si les ports ne se développent pas, le fret ferroviaire ne va pas se développer. Dans une situation où on ouvre à la concurrence, il va être en très grande difficulté, et il l'a été, puisqu'il est ouvert à la concurrence depuis 12 ou 15 ans à peu près. Il est donc en très forte difficulté. Et d'autre part, ça a empêché de nombreuses entreprises de se développer. Soit ces entreprises ont fermé et sont délocalisées, soit elles ont démonté les embranchements ferroviaires et ont fait du tout camion. Or, aujourd'hui, on nous parle de décarbonation des transports. Or, le meilleur transport décarboné, c'est le fret ferroviaire pour les marchandises. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est que toutes les décisions ou les non-décisions qui ont pu être prises depuis 30, 40 ans, finalement, ont préparé un avenir dont on se rend compte aujourd'hui qu'il est... Il nous met très, très, très en retard par rapport à nos voisins. Moi, j'ai fait une visite sur le port de Hambourg, par exemple, et c'est saisissant de voir le retard que les ports français peuvent avoir avec des ports comme cela. On peut facilement dire qu'il y a 25 ans de retard. Quand vous ajoutez à ça l'écart de réseau ferroviaire entre les ports de Hambourg, Rotterdam, Anvers et autres, et les ports français, on se rend compte que la marche maintenant, puisque beaucoup, une grande partie du réseau ferroviaire français a été démonté, pour cause de coûts trop importants, justement parce qu'il n'y avait pas assez de fret ferroviaire. Enfin, on voit bien que c'est un système qui induit une spirale totalement négative vers le bas et qui induit de toute façon une désindustrialisation et une perte d'efficience économique très très importante. Voilà, le gap que nous avons avec les ports étrangers est considérable. J'ai appris récemment, et ça montre encore qu'on est devenu encore plus faible qu'il y a 3-4 ans où j'ai quitté ce domaine-là, j'ai appris que Toulouse se faisait, recevait en fait les containers ou la marchandise qui avait transité par voie maritime par le port de Barcelone. Et pourtant, Toulouse a un port, le port de Bordeaux, mais il se trouve à 200 km.
Alors oui, ça, c'est quelque chose qui est assez grave. Et Frédéric Bastiat disait qu'en économie, il y a ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas. Une usine qui ferme, on la voit. Une usine qui n'est pas née ou qui ne s'est pas créée, on ne la voit pas. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour le public français d'imaginer ce que ça devrait être si on avait un port de Marseille ou du Havre qui soit au niveau d'Amsterdam, ce qu'il devrait être normalement, étant donné son, à la fois le positionnement géographique et le développement économique de la France. C'est pas normal que la première région industrielle en Europe, qui est l'Île-de-France, n'aboutisse pas sur un port qui soit l'équivalent de Rotterdam.
C'est une aberration. Comme vous dites, on ne voit pas ce qui n'a pas été créé et on peut facilement chiffrer qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui n'ont pas été créés en France à cause de cette déroute portuaire. Des centaines de milliers d'emplois. Ces emplois, ils ont été créés en Allemagne, au Benelux ou ailleurs en Asie, mais ils auraient pu être créés en France, ils auraient pu participer à la richesse française et l'activité des ports, qui est une activité, quand elle fonctionne bien, c'est une activité qui redistribue sur l'ensemble du territoire français énormément de richesses. On peut estimer que ce sont des dizaines et des dizaines de milliards qui n'ont pas été engrangés par le pays à cause de cette déroute, tout en investissant massivement dans les ports pour faire en sorte qu'ils se maintiennent au niveau de 1980. Donc on voit vraiment l'aberration industrielle et c'est encore plus aberrant que le gouvernement ne prenne pas ça en main. Vous voyez, et vous disiez en préambule que c'est souvent une affaire d'homme. Je vais vous donner une anecdote qui est désespérante en fait. Je me rappelle, il y avait un poste donc de directeur général de port qui était à pourvoir. Et je rencontre dans cette période-là un des directeurs généraux en poste. Alors, ils étaient tous ceux qui étaient en poste à ce moment-là étaient du corps des ponts. Et ce directeur vient me voir et me dit « Ah, ouais, pour le port en question, donc le port où le poste de directeur général de port était à pourvoir, il me dit, bon, pour ce port, maintenant ça vient au tour de un tel, c'est notre copain, c'est son tour d'être casé. Voilà, on ne cherche pas à nommer des gens qui ont une vision, qui ont une capacité stratégique, qui ont une compétence, qui ont une connaissance, qui ont un caractère, parce que pour diriger un port, il faut vraiment avoir un caractère. À la fois mener des hommes qui peuvent être orgueux dans leur mode de fonctionnement, parce qu'ils ont été habitués à ça, et puis aussi aller à l'étranger, se confronter à des cultures différentes, et puis rentrer dans des sujets de négociation qui peuvent être complexes. Donc c'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher des copains. On va placer un copain qui est du même corps que nous, parce que si on fait en sorte que tous les ports sont pilotés par que des copains, que des confrères, on pourra entre nous masquer les fautes, masquer les erreurs, et finalement, avoir un mode de fonctionnement, ben le mode de fonctionnement dont on a envie et qui nous permettra de vivre plutôt tranquillement et sans risque.
Alors, il y a également la collusion entre ces fonctionnaires des ponts et les élus locaux. Alors, vous donnez là aussi un exemple. Alors, c'est un des personnages inspirés de faits réels qui s'appelle Ursi, qui se lance dans des travaux d'aménagement du port complètement pharaonique à coup d'argent public, alors même que des rapports ont été faits en montrant que ces travaux ne servent à rien. Il fait quand même les travaux dans le but de contenter le maire local. On fait beaucoup de promotion, évidemment, en annonçant des emplois. Tout cela n'aboutit pas. Chacun est conscient que ça ne va pas aboutir, mais ça permet au maire la réélection et à Ursi en question d'accéder à un poste plus important.
Oui, parce qu'il y a, il y a une sorte de fantasme dans cette population-là d'hommes du corps des ponts. Quand ils sont, quand ils accèdent à ce type de fonction, il faut faire un grand projet. Il faut faire un grand projet coûteux. Donc il faut dépenser 100 millions, 200 millions, 1 milliard d'euros. Et plus le projet va être coûteux, plus grossièrement il va être l'image de votre très grande qualité personnelle et visionnaire. Reste que moi j'ai vu un projet de la sorte très coûteux, sur lequel, mais je pense que c'est très courant en France, c'est même devenu une habitude parce que c'est loin d'être une science exacte, menti, très clairement menti sur les emplois créés, projetés. Vous voyez, j'ai appris en passage que par exemple le préfet pouvait être intéressé, intéressé par des primes ou par un avancement lorsque effectivement étaient annoncées des créations d'emplois dans son département. Donc le préfet va pousser. Le maire va pousser aussi parce qu'il va essayer de se mettre sur la photo, d'expliquer que ce grand projet est grâce à lui. Donc on ment sur les emplois, on ment sur les recettes qui sont prévues. J'ai vu des trafics, c'est-à-dire qu'on va justifier un projet en disant que ça va attirer tel trafic. Eh bien, tel trafic n'existait pas. Par contre, le projet était justifié par ce trafic-là. Donc on va construire des très belles installations en béton, magnifiques, elles vont être très très bien faites parce que ça on sait faire. Mais il y a zéro stratégie et puis il y a surtout zéro justification commerciale. Entre-temps, on aura dépensé 100 millions, 200 millions, 300 millions et on ne compte plus les ports qui ont justement leur projet pharaonique qui finalement ne rapporte pas grand-chose. Il y a une vingtaine d'années, le directeur général du port du Havre avait annoncé qu'avec le projet qu'il était en train de lancer, le Havre allait atteindre les 6 millions de containers, les 6 millions de VP. Le Havre n'atteint même pas les 2 millions aujourd'hui, je crois. Donc cet écart, c'est des centaines de millions d'euros de recettes perdues chaque année. Et c'est de la TVA, c'est des recettes fiscales perdues. En fait, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant, le citoyen aussi, parce que c'est de l'emploi qui n'est pas créé. Alors, je parle du Havre, mais tous les ports ont connu ça. Donc, ce qui est révoltant, c'est de voir comment les contrôles, les pseudo-contrôles au niveau de l'État, parce que l'État ne manque pas d'organes de contrôle, de surcontrôle, de recontrôle, etc.
Oui, la Cour des comptes, la Cour des comptes régionale, mais ils ne peuvent faire que des rapports, ils n'ont pas de pouvoir de justice, justement, de
alors, ils ont normalement un pouvoir de justice, mais c'est rarissime, c'est une cour. Mais leur rapport n'est qu'un état de préconisation. C'est absolument pas une injonction de faire. Et d'ailleurs, Ursi, dans le livre, je raconte, à un moment donné, face à une difficulté où on lui explique qu'il ne peut pas lancer telle action, il répond, mais la Cour des comptes, on s'en fout. Et c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans une telle impunité parce qu'ils savent que les contrôles qui sont institués ne sont pas opérants et que même ils ne seront quasiment pas connus et que il y a tout un tas d'organismes de contrôle, alors, je le décris dans le livre, qui sont, c'est hallucinant quand on y pense, quelqu'un qui a travaillé dans le privé, qui est responsable de son affaire, etc., il va croire que j'affabule, mais les organes de contrôle sont composés de personnes qui appartiennent au même grand corps d'État que les contrôlés. Ce qui fait que le contrôleur d'un jour peut devenir le contrôlé du lendemain par le contrôlé. Vous voyez ? Donc il y a une complaisance qui s'installe et finalement les contrôles ne mènent pas à grand-chose. On se fait confiance, on n'ouvre même plus les dossiers quand on les vote. J'ai vu en conseil de surveillance, moi, des membres de conseil de surveillance, ne même plus ouvrir les dossiers. Et puis, il y a en France un travers qui est très grave, c'est que tous ces grands corps d'État ont réussi à instaurer un mythe, qui est le mythe de leur intelligence supérieure. Donc, ces gens ne peuvent pas avoir la moindre défaillance intellectuelle, faire la moindre erreur. Et donc, un conseil de surveillance est fier d'avoir à sa tête un membre d'un grand corps d'État, parce que c'est pour lui gage de grande hauteur de vue. Et le corps des ponts en question, lui, sait qu'il y a cette confiance a priori, confiance aveugle a priori, parmi les membres du conseil de surveillance, qui fait que ces gens-là vont lui faire une confiance aveugle et ne vont même pas ouvrir les dossiers et voter.
D'ailleurs, au début de l'ouvrage, ça commence par une séance de conseil d'administration où il y a une personne qui arrive, qui est un ancien directeur de port retraité, qui parle indéfiniment. Personne ne l'écoute et puis la réunion se termine et tout le monde rentre chez lui et rien n'a été décidé.
Ah oui, alors ça, ce sont des choses très, très courantes. C'est-à-dire que moi, en 12 ans, j'ai jamais entendu, et pourtant j'ai fait partie de réunions à haut niveau, j'ai jamais entendu de discussion d'ordre stratégique. Voilà, on discutait de points réglementaires, de points de détail, de sujets. Alors, le gros sujet dans les ports, c'est le sujet social. Mais finalement, il y a les deux pôles dont je parlais tout à l'heure, le pôle haute fonction publique d'un côté qui dirige les ports, et puis le pôle CGT de l'autre côté qui a un pouvoir très très fort en termes de blocage de ports. Finalement, ces deux pôles-là, qui vont représenter peut-être 10% du personnel, on n'est pas au niveau de la gestion, on est au niveau de l'administration, ce qui est plus basique, vont administrer, co-administrer ensemble les ports. Et on se rend compte finalement que les deux y trouvent intérêt. Les deux ont intérêt à instituer un statu quo parce qu'ils ont trouvé un très bon équilibre. Ils se sont installés dans une rente les uns les autres.
Merci beaucoup, Paul-Antoine Martin, d'avoir évoqué cette question des ports. Alors, ce n'est pas forcément le sujet le plus encourageant pour l'avenir, mais enfin, nommer les choses et nommer les problèmes, c'est déjà le premier pas pour les résoudre. Puis, comme vous l'avez dit, c'est l'enjeu aussi de la France et de l'ensemble de son développement économique, dont les questions de chômage, de richesse des populations. Je renvoie nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet à l'entretien écrit qu'on avait réalisé en février 2023 et à votre ouvrage « Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État » qui est paru chez Maximilo en 2022. Et puis sur le site de Conflit, revueconflit.com, vous retrouvez également nos anciens numéros en format papier ou en format numérique et toutes les modalités pour vous abonner ou pour abonner vos proches, par exemple pour Noël. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.